Ça passe à la télé ?
Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout.
Ah, ça va passer à la radio ?
OTO-RADIO, Autoradio.
Merci vraiment à Jean-Pierre Bedel d'être revenu. Je vais dire pourquoi dans un instant. Donc, je le dis bien, l'année prochaine, nous fonctionnerons sur 3 cycles, donc de 9 ou de 10 conférences par cycle, c'est-à-dire s'il y a juillet ou pas juillet. Nous commencerons donc en octobre. La formation sera diffusée en septembre. Cette année qui a été une année expérimentale, nous avons donc fait choix de la thématique de la démocratie et je vais y revenir dans un instant. Mais nous avons constitué en même temps un conseil d'orientation, c'est-à-dire un ensemble de personnalités d'Arcueil ou qui ne sont pas d'Arcueil d'ailleurs, pour essayer d'identifier quelles étaient les thématiques qui pouvaient le plus concerner le plus grand nombre de nos concitoyens. Donc ce conseil d'orientation a choisi pour l'année prochaine 3 thématiques qui fonctionneront en parallèle. La première est intitulée « Capitalisme et responsabilité ». Je disais, c'est très lié au contexte immédiat. Peut-on attendre d'une logique capitaliste une responsabilité qui dépasse la question de ses propres intérêts et c'est une question évidemment tout à fait fondamentale. La seconde thématique est intitulée « Valeurs et symboles ». Quelles sont les valeurs que nous partageons aujourd'hui encore? Troisième thématique, qui est un peu en écho de la première, on le voit partout, revenir avec la crise, évidemment, une certaine forme de demande de régulation, mais quel type de régulation? Et c'est le retour, la troisième thématique est intitulée « Le retour du politique, point d'interrogation ». Et évidemment, le retour du politique, à quel échelon, quand on regarde la réalité géoplanétaire. Voilà, donc ce seront les 3 thématiques qui se dérouleront tout au long de l'année, un lundi par mois. Nous attaquerons vers la mi-octobre, la seconde la semaine suivante et la troisième la semaine encore suivante. Non pas pour créer la boulimie, mais pour essayer de diversifier aussi le public de cette université. Sur cette thématique de la démocratie, nous avions ouvert en décembre dernier avec Jean-Pierre Bedel sur son précédent ouvrage qui était une biographie de François Vincent Raspail. Et pourquoi? Parce que le François-Vincent Raspail, père d'Émile Raspail, maire d'Arcueil, participait aux premières élections présidentielles au suffrage universel masculin et avait pris une raclée monumentale, puisqu'il avait dû avoir, Jean-Pierre, c'est bien ça, à peu près 30 000 voix, si c'est pas le sujet du jour, quand un personnage qui n'existait que par son nom, totalement vierge politiquement, si je peux me permettre cette expression, apparaît dans le paysage, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, et qui lui va réunir, si je ne me trompe pas non plus, quelque chose comme 7 millions de voix. 7 millions. Bien, ça c'est l'avènement de la Seconde République, et 3 ans plus tard, le 2 décembre 1851, coup d'État, non pas coup d'État militaire, mais coup d'État institutionnel, puisque par un plébiscite, il obtient le renversement de la République et de sa Constitution pour en faire le Second Empire. Donc, c'était bien ce moment historique de se poser la question, mais est-ce que la démocratie représentative était déjà si mal partie que cela au départ? Le cycle s'est développé au cours de l'année, mais comment ne pas questionner quand il s'agit de réfléchir à la démocratie, les relations entre l'information et le pouvoir. Or, il se trouve que lorsque Jean-Pierre Bedel est venu avec nous parler de Raspail, il me dit, bah, tiens, je viens de sortir cet ouvrage, et je me suis dit, mais c'était une très belle occasion de lui donner la possibilité de refermer la parenthèse de cette année, ou le cycle de cette année, puisqu'il est évident que la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par lui-même, suppose que ce peuple ait les outils d'appréciation, de réflexion, et qui commence évidemment par l'information. Alors, Il va nous montrer dans ce, par ce passionnant exposé qui va donc interroger cette question démocratique que suppose l'information. Et on, je ne vais pas multiplier les exemples. On sait très bien que quand un régime totalitaire arrive au pouvoir, ce qu'il commence par faire, c'est museler la presse, interdire telle ou telle publication. Donc cet ouvrage traite des rapports entre l'information avec le ministre de l'information qui était Alain Perfitte et le pouvoir sous la Ve République me semblait une excellente occasion d'aborder ce dernier volet, encore une fois, de cette thématique de l'air. On parle à trois choses. La façon dont on cadenasse l'information. Deuxièmement, le moyen aussi de désinformer, eh bien, c'est de tenir sous boisseau, d'interdire une information. C'est faire en sorte qu'elle ne circule pas, qu'elle ne sorte pas. On aura des exemples croustillants comme Tchernobyl, par exemple. Et le troisième volet, c'est évidemment la manipulation de l'information, c'est-à-dire la forme la plus sournoise, la plus aboutie de la domestication de l'information par le pouvoir. J'étais long, je m'en excuse. Vous avez la parole.
D'abord, quand on parle d'information, de démocratie, de manipulation de l'information, quand on ouvre ce débat, il faut se garder de toute idée préconçue et de toute exagération, de toute caricature, parce que finalement la démonstration qu'on veut faire peut aussi se retourner contre soi. Donc cette question de la presse, de l'information et de la démocratie, il faut essayer de regarder les choses le plus lucidement possible. La première erreur qu'il faut éviter de commettre, c'est de considérer, parce que c'est un peu dans l'air du temps, que le système de l'information est totalement perverti. C'est-à-dire que le pluralisme n'existe pas, que les journalistes sont à la botte de l'entreprise ou du pouvoir, que, en fait, toute l'information est totalement verrouillée, cadenassée, manipulée. Bon, c'est pas exagéré, on n'en est pas là. Je veux dire, la France aujourd'hui, c'est pas la Russie, c'est pas la Corée du Nord. Il est clair que le pluralisme existe. Il suffit de regarder un kiosque à journaux pour s'apercevoir que floraison de publications, et notamment pour s'apercevoir que du Figaro à Charlie Hebdo, toute la gamme des sensibilités politiques est représentée, que ce soit à travers les quotidiens ou à travers les hebdomadaires. Donc je pense que à ce niveau-là, on ne peut pas reprocher à un pays comme la France de ne pas être un pays où la liberté de la presse est bâillonnée ou n'existe pas. D'autre part, il faut savoir aussi que par rapport à certaines périodes, notamment du siècle précédent, on n'assiste pas du tout aux mêmes manœuvres face à la presse qu'à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on parlait de Raspail tout à l'heure, qui lui aussi était un directeur de journal. À l'époque de la monarchie de Juillet, bien sûr, on n'était pas en démocratie, mais quand on voulait couler un journal, on lui faisait des procès à répétition, ce qui, effectivement, vidait sa bourse et le contraignait à mettre la clé sous la porte. Donc on n'a plus, de la part du pouvoir politique, ce type de manœuvre pour bâillonner la presse. Bon. De même que, si on peut considérer qu'un certain nombre de journalistes sont en connivence avec les politiques, on ne peut pas non plus considérer que l'ensemble des journalistes travaillent en connivence avec les politiques. Je veux dire, les journalistes, notamment ceux de la base, ont leur esprit critique, l'exercent, mais ils sont aussi tenus par une hiérarchie, ils sont aussi tenus de respecter des règles de fonctionnement d'une entreprise. Donc, il faut moduler un petit peu les attaques contre un système perverti qui est un peu en vigueur actuellement. Bon, cela dit, est-ce qu'on peut se satisfaire de ce constat ? Non, évidemment, si on est là ce soir, c'est qu'on pense que confusément, il y a quand même un problème entre information, démocratie et opinion publique. Alors, comme je l'ai dit, le pluralisme existe, mais si on regarde un peu quelques chiffres, on s'aperçoit aussi qu'il s'étiole. En 1914, par exemple, il y avait 57 titres de presse nationale, de presse écrite. En 1939, il n'y en a plus que 29, et aujourd'hui, il y en a 10. Bon, donc ça signifie que l'éventail, quand même, se réduit. L'éventail de la presse nationale se réduit, et évidemment, ça entraîne une réduction aussi du tirage, puisque en 1914, il y avait 5 500 000 exemplaires par jour de quotidien qui se vendaient, et aujourd'hui, on en est tout juste à 1,6 million. Donc on voit bien qu'à la fois le pluralisme se réduit, qu'il y a moins de lecteurs aussi. Et si on ajoute la chute des recettes publicitaires, on s'aperçoit que la presse écrite, et notamment la presse quotidienne, est un secteur qui commence à être passablement sinistré. Alors, c'est quand même un danger pour la démocratie, parce que la démocratie, c'est quand même le pluralisme de la presse. La presse, on peut considérer ou non que c'est un quatrième pouvoir, mais toujours est-il que dans une démocratie, s'il n'y a pas de pluralisme de la presse, il n'y a pas de démocratie, quoi. Je veux dire, ça c'est évident. Donc cet affaiblissement du pluralisme est une manière aussi d'affaiblir la démocratie. Autre sujet d'inquiétude dans ce registre, ce sont les liens capitalistiques qui unissent de grands médias à des industriels qui dépendent des commandes de l'État. Ça, c'est une manière aussi de restreindre un petit peu, et même considérablement par moment, l'indépendance de la presse. Bon, que ça soit l'armement pour Dassault, qui est propriétaire du groupe Le Figaro, ou Lagardère, avec Europe 1, le journal du dimanche, Paris Match, ou même le BTP avec Bouygues, qui est propriétaire de TF1 et LCI. Et quand en plus ces gens-là font partie des amis du président de la République, effectivement, on peut nourrir quelques suspicions à l'égard de l'indépendance de ces organes de presse. On peut rajouter Bernard Arnault, qui est maintenant propriétaire des Échos, de Radio Classique, et Vincent Bolloré, qui est propriétaire de Direct 8, et des quotidiens Direct Soir, etc. Donc on s'aperçoit que, quand on fait un peu l'addition de tout ce monde médiatico-industriel, c'est quand même des millions de lecteurs et de téléspectateurs qui sont quand même informés par des médias dirigés par des gens qui ont des liens avec le pouvoir politique et avec les milieux industriels. Bon, donc il faut quand même avoir ça présent à l'esprit quand on lit un journal ou quand on écoute une radio ou quand on regarde la télé. Donc ça, c'est pour brosser le tableau général. Alors à partir de là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas croire que tous les journalistes qui se travaillent dans ces médias-là sont forcément des sarkozystes et qu'ils sont inféodés au pouvoir. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils essaient de faire le plus correctement possible leur travail, mais ils se heurtent parfois à une hiérarchie qui, elle, est en contact avec le pouvoir politique et industriel et qui est obligée de composer. Et ces journalistes-là, toujours les mêmes, savent aussi que leur cadre rédactionnel, leur patron étant ami de pouvoir politique, c'est difficile aussi de pouvoir forcément dire tout ce que l'on a envie de dire. Et donc, c'est l'autocensure qui est en train de prendre un peu le pas sur la censure qu'on pouvait connaître auparavant, qui était un peu plus brutale, sommaire et péremptoire. Donc ça, c'est un phénomène qui est difficilement visible pour le lecteur, mais il faut quand même bien savoir que l'autocensure existe. Quand vous savez que votre patron est ami d'un ministre ou d'un président de la République, vous y pensez. Au moment de faire votre papier ou de faire votre enquête, c'est quand même quelque chose que vous avez présent à l'esprit. Et si jamais vous ne l'avez pas présent à l'esprit, vous pouvez très facilement vous remettre en tête la réalité. Donc voilà, ça c'est un peu le tableau général. Bon, alors, dans cette galaxie médiatique, si la presse écrite décline, notamment la presse quotidienne, il y a d'autres médias qui, depuis une cinquantaine d'années, ont repris le flambeau de l'information, se sont développés, et notamment la télévision. Alors, il ne faut pas croire que... moi, j'ai fait une étude sur la Ve République, mais il ne faut pas croire qu'avant la Ve République, l'information était totalement libre, etc. Chaque fois, en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des médias, chaque fois que des médias se sont créés, se sont développés, les politiques ont essayé d'y mettre la mainmise dessus. Quand la radio est née au début des années 30, André Tardieu, qui était le président du Conseil, a compris tout le bénéfice qu'il pourrait tirer de la radio pour sa, pour ses campagnes politiques, pour faire passer son message, et il faisait suivre ses déplacements de quelques gens. Les premiers radio-reporters de l'époque qui retransmettaient ses discours, faisaient des articles sur ses discours, etc. Et il a usé tellement du procédé que ses adversaires politiques l'avaient surnommé l'homme au micro entre les dents. Donc c'est déjà à l'époque, il y avait la tentation très forte, dès qu'un nouveau média apparaissait, tentation très forte pour les politiques d'essayer de mettre leur emprise dessus, parce que les politiques croient à tort ou à raison qu'il suffit qu'ils paraissent, qu'ils parlent pour que leur message porte et passe. On va s'apercevoir que c'est pas aussi simple que ça. Mais donc tout ça pour vous dire que dans ce pays, la tentation par les politiques de maîtriser les médias est une vieille tentation. Et si on regarde bien l'histoire de la presse en France, on s'aperçoit qu'il y a très très peu de périodes où les médias ont été totalement libres, quoi. Je veux dire, au XIXe siècle, quasiment pas. Entre la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire, on ne peut pas dire que tout ça est brillé par les libertés de la presse. Bon, alors ensuite, quand arrive la République, évidemment, veto se dessert. Si on regarde statistiquement, ça a toujours été quand même une situation difficile pour que la presse reste indépendante. Donc quand arrive à la télé dans les années 50, effectivement, alors là, c'est le rush, parce que très rapidement, enfin, les politiques vont s'apercevoir que la télévision va devenir une compagne quotidienne des Français, et qu'à travers elle, ils allaient pouvoir pénétrer dans les foyers quasiment tous les jours. Donc c'était une occasion facile pour essayer, là encore, de mettre le grappin sur un média qui allait se développer au-delà même de leurs espérances, tout au moins dans les années 50. Et quand le général de Gaulle revient au pouvoir en 58, de Gaulle, qui a été quand même pas mal ostracisé pendant la 4e République, puisqu'on ne diffusait pas on ne parlait plus de lui depuis qu'il avait quitté le pouvoir, revient au pouvoir avec dans la tête une idée qui gardera jusqu'à qu'il quitte le pouvoir d'ailleurs, qui était de dire: la presse écrite est contre moi, donc pour contrebalancer cet antagonisme, cette opposition, eh bien moi je vais me servir de la télévision, puisque c'est la télévision d'État. Puisque c'est l'État qui finance la télévision. Alors il commettait une petite erreur, parce que le service public, c'est pas forcément une télévision qui doit être au service du gouvernement. Le service public, c'est plus large que ça. Mais bon, dans l'optique de Gaulle, il était clair que la télévision devait être un moyen de toucher les Français et de contrebalancer l'influence considérée comme néfaste de la presse écrite. Et donc à partir de ce moment-là, en 58, quand il arrive au pouvoir, il coupe les têtes de la hiérarchie de la RTF à l'époque, et il met en place des hommes à lui, avec une particularité qui aujourd'hui paraît complètement choquante, c'est que vous aviez parmi les hauts cadres de la RTF des gens qui faisaient partie du cabinet du ministre de l'Information. C'était comme ça, évidemment, on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Donc vous aviez des gens qui étaient à la fois conseillers du ministre de l'Information et qui préparaient le journal télévisé dans le reste de la journée. Alors évidemment, comme on était en pleine guerre d'Algérie, tout ça évidemment a tourné très facilement à la manipulation et au verrouillage de l'information. Et de Gaulle, quand il convoquait Peyrefitte, qui était son secrétaire d'État d'information et qui était le porte-parole du président de la République, n'y allait pas par quatre chemins, si on en croit les confidences de Peyrefitte qu'il a racontées dans de nombreux ouvrages. Et je pense qu'on peut assez lui faire confiance, parce que, bon, après, par recoupement que j'ai pu faire, je me suis aperçu qu'effectivement, Peyrefitte retranscrivait assez bien le langage de De Gaulle. Et ça peut vous donner ce genre de colère de De Gaulle en direction de Peyrefitte, qui reçoit un jour dans son bureau. Il lui dit: ce que font vos radios et votre télévision est inqualifiable, ce sont elles qui donnent le ton à toute l'information. Comment pourrions-nous attendre de la presse écrite qu'elle ne fasse pas la propagande de l'OAS quand tous vos micros se tendent vers les plastiqueurs et les tueurs pour les transformer en vedettes? C'est vous qui êtes responsable, dit-il à Peyrefitte. Vous ne tenez pas vos gens. Si le directeur général et les directeurs ne font pas l'affaire de la RTF, changez-les. Si les journalistes ne comprennent pas ce qu'est le salut public, videz-les et que ça ne traîne pas. Bon, voilà un petit peu quelle était la ligne de conduite de De Gaulle vis-à-vis de la télé et de l'ORTF. Et donc, il a trouvé en Michel Debré un Premier ministre extrêmement zélé pour mettre au pas l'ORTF, puisque je me suis aperçu dans les archives de Michel Debré que les consignes et les instructions du Premier ministre à l'égard du directeur de l'ORTF, de l'ORTF, étaient quasiment quotidiennes. C'est à croire qu'il passait son temps à regarder la télé. Il est vrai qu'il y avait moins de programmes que maintenant. Mais il est manifeste que Michel Debré a pris son rôle de verrouilleur très à cœur et les consignes étaient quasiment quotidiennes. Jusqu'à un jour, il a carrément dit à De Gaulle « j'ai pris la décision de piloter moi-même la direction de l'ORTF ». Bon, depuis Matignon, c'est évidemment comme ça, on était sûr qu'il n'y aurait pas de déperdition. Et tous les matins, à l'époque, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 60, 65, 66, Alain Peyrefitte, qui était le ministre de l'Information, secrétaire d'État et ministre, puis ministre de l'Information, recevait tous les matins les responsables de la chaîne de la télévision pour leur dicter le contenu du journal télévisé du jour. Donc, pour avoir rencontré Michel Onfroy, qui était un journaliste de cette époque-là, et pourtant gaulliste, qui m'avait raconté qu'un jour, il avait dit qu'il y avait une manifestation de paysans dont ils avaient reçu les images, et Peyrefitte lui dit « vous ne la passerez pas, mais alors qu'est-ce qu'on va dire? On a reçu les images, vous n'aurez qu'à dire que vous n'avez pas reçu les images ». Bon, au moins comme ça, le problème a aussi été clairement réglé. Donc voilà comment a fonctionné la télévision au temps de De Gaulle. Donc c'était verrouillage, pression, placement des amis politiques les plus sûrs, télévision, c'était ça sous la période de Gaulle. C'est un peu resté ça après sous la période Pompidou, puisque Pompidou a eu cette phrase une fois, la télévision c'est la voix de la France, bon, ce qui était une manière de dire aussi à peu près la même chose que de Gaulle, donc il fallait filer doux et répercuter le message officiel. Bon, Chaban, Delmas a essayé de libéraliser un peu le système, mais ça ne m'a pas porté bonheur, parce que dès qu'il a voulu oxygéner un peu le fonctionnement de la télévision, préparer une réforme, bon, il a eu tous les cadres de l'UDR à l'époque qui se sont levés contre lui, parce qu'il était hors de question de libéraliser les ondes. On était dans le suivisme gaulliste le plus total, même quand c'était Pompidou. Ensuite, l'époque Giscard, là c'est pareil, on a modifié, je ne rentre pas dans les détails, mais les statuts et les statuts juridiques de la télévision, on a fait plusieurs sociétés, mais le résultat était à peu près le même, c'est-à-dire qu'on a toujours placé des amis politiquement sûrs, de manière à ce que le pouvoir politique continue à contrôler quand même l'information. Arrive ensuite la gauche, alors là on modifie un peu les choses, c'est-à-dire que c'est à la fois continuité et changement. Continuité parce que quand la gauche arrive au pouvoir, elle estime que depuis 20 ans, elle a été lésée sur le plan politique à la télévision, et donc elle demande aux responsables politiques de l'époque de quitter les lieux, de vider la place, ce qui est une manière aussi de couper les têtes de manière peut-être plus soft, mais enfin bon, le résultat est le même. Et en même temps, elle met en place une haute autorité de l'audiovisuel qui est chargé notamment de vérifier que le pluralisme d'expression n'est pas bafoué à la télévision, et qui est aussi chargé de nommer les PDG de la télévision publique. Alors c'est un premier pas, effectivement, c'est un progrès, parce que le cordon ombilical est théoriquement coupé avec le pouvoir politique, mais je dis théoriquement coupé parce qu'il y a quand même quelques exemples qui montre que un certain nombre de nominations dans les années 80 ont été le fait directement de François Mitterrand, qui a voulu caser tel ou tel journaliste ou tel de ses amis. Bon, et le témoignage que j'ai recueilli dans le journal ne peut pas être suspect d'anti-mitterrandisme, puisqu'il provient de Michel Cotta, qui était président de cette haute autorité et qui s'est vu imposer notamment une ou deux nominations qu'elle n'avait pas choisies. Bon. Donc elle avoue d'elle-même, voilà. Donc si le système s'est un peu détendu, le cordon ombilical finalement n'a pas été totalement coupé. Mais il est vrai qu'il y a eu un vent de liberté qui a souffler davantage dans les rédactions, puisque bon, les journalistes reconnaissent eux-mêmes que cette auto-autorité a permis quand même de filtrer certaines interventions, d'en repousser un certain nombre. Ils ont travaillé dans de meilleures conditions. Le vrai problème étant effectivement toujours la nomination des PDG de l'audiovisuel public. La création des radios libres, en 81, on peut dire que, grosso modo, il y a eu une certaine libéralisation des ondes qui a été apportée par la gauche. Bon. Ça, c'est ce que j'appellerais les interventions, disons, un peu brutales, quoi. C'est-à-dire, on met des gens dans des places, on en mute, on en vire, voilà. Donc, bon, ça, c'est une forme de contrôle de l'information qui est un peu forte, quoi, disons. Mais à partir des années 80, il y a un autre mouvement qui se dessine, qui est une forme d'intervention aussi, qui est beaucoup plus insidieuse, qui est beaucoup plus sournoise, qui est beaucoup moins publique, et qui se traduit par, à mon avis, deux tendances qui vont modifier complètement la donne sur les ondes, qui est à la fois les pressions économiques, c'est-à-dire l'introduction de la sphère économique à la télévision. Et ça, l'année, à mon avis, importante, c'est l'année 86, qui est la privatisation de TF1, où là, maintenant, la publicité va venir financer notamment une chaîne de télévision. Et le problème de ce financement, c'est que les pressions ne vont plus venir des milieux politiques, mais vont venir des milieux économiques. Et c'est ce que raconte un certain nombre de journalistes. On a un exemple, Bruno Mazur, qui dit c'est évident que s'il y a un conflit social, par exemple, chez Nestlé, ou s'il y a des problèmes économiques chez Nestlé, c'est difficile pour TF1 d'aller faire un reportage sur Nestlé, parce que Nestlé est un des annonceurs de TF1. Bon, et ça, multiplié par X et X annonceurs, il est bien évident que la liberté de manœuvre des journalistes se réduit par rapport à un certain nombre de pouvoirs économiques. Et donc ça, c'est un des éléments qui va énormément peser à la fois sur le fonctionnement des rédactions, parce que on se demande toujours si le traitement qu'on va accorder à telle ou telle actualité pose un problème par rapport aux annonceurs. Et puis, ça va rehausser l'enjeu de l'audimat, parce qu'effectivement, si il y a de la publicité, si la chaîne marche, on fait davantage payer la publicité et ça rapporte davantage de pognon. Je veux dire, c'est le cercle classique. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus se permettre. À partir du moment où les enjeux économiques deviennent tellement importants, on ne peut plus se permettre la moindre erreur, quoi. Et donc, les journalistes vont se trouver dans une situation de plus en plus difficile qui va les contraindre maintenant à faire attention aussi au milieu économique, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60, où il n'y avait pas vraiment la publicité qui intervenait sur les écrans. Donc ça, c'est un des éléments qui va peser beaucoup, et qui pèse encore actuellement, sur le fonctionnement de la télévision. D'autant plus que la course à l'audimat va susciter une autre forme de perversion de l'information, qui est celle de la pipolisation. Grosso modo, c'est à peu près à la même période que la pipolisation commence à faire son entrée massive. Il existait déjà des plans de communication depuis les années 60, mais à partir des années 80, au milieu des années 80, la communication politique va prendre un poids de plus en plus important. Et là, s'il y a un tournant à donner, c'est, à mon avis, l'année 85, avec, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette émission de Mitterrand qui est interviewée par Yves Morousi, où tout a été préparé de longue date, les réponses, les questions. Bon, c'est l'époque où c'est dans cette émission que Morousi s'assoit sur le bureau de Mitterrand, ce qui est quand même. On n'avait jamais vu ça à la télévision, un journaliste s'asseoir avec une fesse sur le bureau du coin du bureau présidentiel et qui interroge Mitterrand comme ça, et Mitterrand répond. Chebran, Cablé, montre qu'il maîtrise le verlan, bon, ce qui n'est pas du tout sa culture, comme chacun le sait, mais on se dit, là, on est dans une espèce d'artifice de communication qui n'a plus grand-chose à voir avec la politique. Et à la fin de l'émission, l'inénarrable Jacques Ségala s'écrit « C'était une excellente émission de variété ». Bon, et, il n'avait pas encore sa Rolex, puisqu'il ne devait pas avoir 50 ans, mais déjà, il était toujours dans la démesure. Et bon, là, on est à un tournant, parce qu'on se dit, comment ça, un personnage comme Mitterrand, qui voulait donner plutôt l'image d'un sphinx en politique, un homme de gauche, etc., qui commence à tomber lui aussi dans les artifices de la politique de communication, ça commence à être un peu curieux. Et évidemment, c'est pas par hasard s'il tombe en 85, c'est que c'est une année avant les législatives de 86, dont que la gauche sait qu'elle va perdre. Donc la gauche sait qu'elle va vers une défaite électorale. Bon, comment sauver les meubles? Il n'y a plus grand-chose sur le plan politique à proposer. Donc on se dit, on va faire un peu de communication politique. Et évidemment, Mitterrand, c'est le personnage central de la gauche à l'époque, donc c'est lui qui s'y colle. Il le fait plutôt bien, parce que l'émission est plutôt réussie sur le plan technique. Sauf qu'on peut se demander où on va, quoi. Parce que si maintenant on en arrive à une telle dérive, qu'en est-il de la politique? Qu'en est-il de la politique? Qu'en est-il même un peu de la démocratie? Parce que, évidemment, cette tendance va s'accélérer. Elle va s'accélérer et, vous avez vu sûrement la télévision comme moi à partir de, notamment dans ces périodes-là, vous avez bien vu que maintenant les politiques se sont prêtés à des émissions de variété jusqu'à même ce rigide de Jospin qui est allé jusqu'à chanter les feuilles mortes dans une émission de télévision. Parce que, alors, Jospin, c'était presque pire que Mitterrand. J'ai du mal à imaginer Jospin se mettant en scène comme ça. Mais même lui a réussi à le faire. On a même vu Arlette Laguiller, pourtant, qui dénonce le système mercantile de la télévision économique, elle aussi se prêtait à des émissions de variété. Bon. Donc c'est un phénomène qui a vraiment touché tout le monde, le summum étant la participation très remarquée de Rocard à une émission d'Ardisson, pour de laquelle Ardisson lui a posé comme question « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» Bon. C'était quand même un ancien Premier ministre. On peut se demander ce que faisait Rocard dans cette émission, à se faire poser ce type de questions, parce que manifestement, on connaît le type d'émission d'Ardisson. Donc quand on n'y va pas par surprise, on sait qu'on peut effectivement se faire ramasser sur des questions comme ça. Donc les années 90 ont été quand même une année, des années particulièrement dévoyé sur ce plan-là. Quoi. Je veux dire, il n'y avait pas un politique qui pouvait s'empêcher de passer une émission de télévision, à tel point qu'on arrive à une inversion des valeurs qui est assez phénoménale, c'est-à-dire que ce ne sont pas les journalistes qui sont flattés d'interviewer un président de la République ou un ministre, ce sont les ministres qui sont flattés de se faire tutoyer par Carle Zéro. Puisque dans son émission, le principe de son émission, c'était d'inviter les ministres, les responsables politiques, à condition qu'ils les tutoient. Et tous, à l'exception, je pense, de Pierre Monroy, tous ont accepté ça, quitte à se faire parfois tourner en ridicule, etc. Mais c'était une espèce de passage obligé pour plaire. Pour plaire, pourquoi? Parce que on arrive à une période dans les années 90, où on s'aperçoit que finalement, les politiques sont impuissants face au pouvoir économique et que donc à partir du moment où leur programme, où leur message, où leur idéologie sont parfaitement impuissantes, qu'est-ce qui reste? Pour maintenir le contact avec les gens, il reste la personnalité, de jouer sur sa personnalité, sur les apparences, sur les artifices. Bon, et on arrive à cette espèce de société médiatico-politique des années 90 où on ne sait plus vraiment qui fait quoi, si les émissions de politique sont des émissions de variété, si les émissions de variété sont des émissions politiques, je caricature à peine, mais on peut quand même parfois se poser la question. Et donc là, on arrive à une espèce de dévoiement de la démocratie, parce que il n'y a plus de repères, il n'y a plus de séparation, on ne sait plus très bien Et qui fait quoi et quel est le message, notamment diffusé par les politiques, aux citoyens. Dans ce genre d'émission, on ne voit pas très bien. Alors, les politiques se défendent en disant si on veut être entendu, notamment par les jeunes, il faut aller chez Ardisson. Bon, c'est possible. Enfin, s'ils en sont là, c'est quand même un peu problématique. Donc, on a, à partir des années 90, cette espèce de dévoiement, à la fois économique et à la fois de la pipolisation. Et on en arrive alors avec le bouquet, évidemment, intervient avec l'entrée en scène de Sarkozy, et suivi de peu par Ségolène Royal lors des élections présidentielles. Parce que Sarkozy, lui, a très bien compris tout, évidemment, le bénéfice qu'il pouvait tirer du fonctionnement des médias. Bon, c'est un enfant de la télé, hein, comme Ségolène Royal. Cette génération-là, c'est des enfants de la télé. Ils ont compris comment ça marchait, comment ils pouvaient en tirer profit politiquement. Et ils s'adaptent très bien. Et Sarkozy a une formule qui, sa franchise habituelle, caractérise très bien ce qu'il pense. Il dit « Les médias sont comme des chaudières. Si vous êtes celui qui met du combustible, vous existez. » Les médias sont des miroirs, des accélérateurs de particules. Bon, alors là, lui, ça ferait qu'il fait accélérer les particules, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il alimente la chaudière. Et ça donne une présence quasiment quotidienne en organisant des sorties, des déclarations, des prises de position. Et il a intégré parfaitement les techniques qui sont mises en œuvre aux États-Unis depuis quelques années, un certain nombre d'années, qui s'appellent le storytelling, c'est-à-dire qu'on construit une image, une histoire pour les gens, qui les tient en haleine sur le personnage, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il fait, sur sa famille, sur son entourage, sur sa manière de se situer par rapport à ses prédécesseurs. Et donc, tous les jours, il faut alimenter Cette histoire. Et Sarkozy, il faut bien le reconnaître, a parfaitement réalisé cette technique, parce que franchement, il était impossible de ne pas savoir ce qu'il faisait tous les jours depuis 2002 notamment. Donc ça a été fait de manière très professionnelle, parce qu'il est entouré de gens qui sont très professionnels sur le plan de la communication, qui fonctionnent très bien, et qui sont à l'avant-garde des techniques, et lui incarne parfaitement cette nouvelle manière de faire la politique, parce qu'il est très plastique, il s'adapte très bien à la télévision, son message est court, son message est percutant. Quand vous écoutez Sarkozy, vous avez l'impression que à peine ce qu'il a déclaré, c'est déjà rentré dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volontarisme qui fait que aussitôt dit, aussitôt fait. Et les gens sont plutôt sensibles à ça. Quand même bien le reconnaître, parce que ils ont l'impression que les politiques sont dépassées par l'économie, etc. Alors quand ils voient quelqu'un qui met le paquet, qui donne l'impression effectivement d'être efficace, évidemment c'est un discours qui marche. Alors chacun peut juger comme il l'entend la stratégie politique et médiatique de Sarkozy, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a plutôt réussi. Quant à la télévision, alors est-ce que le message qui émane de la télévision, est-ce que le passage des politiques à la télévision a une influence? Parce que c'est aussi ça. Je veux dire, quand Sarkozy bâtit un storytelling, est-ce que ça a une influence? Est-ce que quand plusieurs personnalités passent fréquemment à la télévision, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est ça qui fait voter pour les personnalités en question? Il faut se poser la question. C'est pas si simple que ça, là encore. C'est pas si évident. Deux exemples. Entre 93 et 95, TF1 a fait quasiment la campagne d'Edouard Balladur. C'est un secret pour personne que TF1 s'est engagé aux côtés d'Edouard Balladur pour la présidentielle de 95, et ça de manière très tôt. Ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que quand en 86 on a privatisé TF1, Léo Tardy, la privatisation est élément essentiel si l'on veut éloigner l'État de l'information. Bon, moyennant quoi, 7 ans après, TF1 a mis sa roue dans le sillage de Balladur, a tout fait pour que Balladur soit élu. Mais manque de chance, ça n'a pas marché. C'est pas Balladur qui a été élu en 95, malgré les efforts de TF1. De même, en 2002, si on considère les choses sereinement, on s'aperçoit que Jospin est passé plus souvent à la télévision que Le Pen. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est qualifié pour le deuxième tour? C'est Le Pen, c'est pas Jospin. Bon, donc la télévision ne fait pas tout. Quand les gens ont l'impression qu'on veut un peu leur bourrer le mou et que par des consignes ou à des passages fréquents un peu trop autoritaires, et les gens se doutent qu'il y a un problème derrière, qu'on essaie de les influencer. Donc, le problème de la télévision, ce n'est pas la fréquence des passages, à mon avis. Le problème de la télévision, c'est le climat qu'elle dégage. C'est-à-dire que quand on axe l'information perpétuellement sur l'émotion ou sur la peur, il est évident que les gens, et notamment ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées politiques, parce que vous avez quand même un certain nombre de gens qui ont des opinions politiques très tranchées, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, ils n'ont pas forcément besoin de la télévision pour se faire une opinion. Donc ceux-là, voteront ce qu'ils ont envie de voter. Mais vous avez une grande partie, à mon avis de plus en plus grande, une espèce de marée qui grossit de gens qui n'ont pas beaucoup de convictions a priori ou d'idées politiques qui se sont faites eux-mêmes. Et à mon avis, c'est sur cet électorat-là flottant que l'influence de la télévision est la plus grande. C'est-à-dire que quand on fait de la télévision en exagérant ou en donnant une importance quasiment quotidienne ou importante aux problèmes de sécurité, évidemment, les gens qui ne sont pas très formés politiquement ont l'impression qu'on vit dans une société où l'insécurité est totale. Force d'avoir ce disque qui est balancé tous les jours, tous les deux jours sur la délinquance, sur la sécurité, etc., ces gens-là se rapprochent inévitablement des candidats au présidentiel qui mettent l'accent sur la sécurité. On a bien vu qu'en 2002, c'est Chirac et Le Pen qui sont arrivés en finale. C'est pas par hasard si ces deux candidats-là avaient mis le paquet sur la sécurité. Alors, il y a également d'autres raisons, notamment la mauvaise campagne de Jospin, parce que, Dieu merci, heureusement qu'il y a des campagnes électorales, parce qu'il y a aussi une dynamique, et que si un candidat fait une bonne campagne, il a de fortes chances d'être qualifié. S'il en fait une mauvaise, il ne sera pas qualifié. C'est ce qui est arrivé aussi à Jospin. Sa campagne n'était pas bonne, donc automatiquement, c'est les autres thèmes qui ont été prégnants, et notamment auprès de cet électorat flottant. Donc, faut savoir que c'est cette balance qui est difficile à savoir quel est son impact. Moi, je pense que ça se joue là, ça se joue sur cet électorat avec l'émotion. Vous n'avez qu'à regarder les journaux télévisés maintenant. Ils ouvrent leurs journaux sur généralement des faits divers, l'émotion, les ceci, les cela. C'est un moyen d'accrocher les gens. Parce que les gens, vous voyez une image spectaculaire, un crash d'un avion, un accident de voiture, un incendie, etc. Vous voyez des gens, tout le monde est saisi par ça. Je veux dire, même si on a beau être rationnel, purement rationnel, on regarde, je veux dire, oui, quand même, une espèce d'identification. Donc l'émotion, à mon avis, c'est pas un bon vecteur d'information. La démocratie a tout intérêt à se méfier de l'émotion qui est véhiculée par les médias. Parce que on n'est pas dans la réflexion, on est dans l'impression. Et à ce moment-là, comment juger des choses, sérieusement. Donc c'est plutôt ce climat que peuvent... instaurer la télévision, qui est à redouter en termes de démocratie, parce que les thèmes du débat ne sont pas posés, les problèmes de fond ne sont pas posés, c'est évident. Je veux dire, on en est sur le superficiel, on en est sur l'impact de l'image. Donc, voilà le vrai problème, à mon avis, de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie est plus rationnelle qu'émotionnelle, à mon sens. Mais or là, on est dans un système d'information qui privilégie l'émotionnel. À cela s'ajoute, parce que ça fait partie du même un ensemble. L'influence prise par les sondages. Là aussi, on est dans une image plutôt émotionnelle, plutôt artificielle. Les sondages, là encore, la presse est vecteur de ces sondages, que ce soit la presse écrite ou la télévision. Pourquoi ? C'est très simple, je veux dire. Là, on est dans un espèce de ménage à trois entre les politiques, les sondeurs et les médias, qui est finalement profitable à tout le monde. C'est-à-dire que les sondeurs, notamment en période électorale, c'est sonder plus pour gagner plus. C'est-à-dire, plus on fait de sondages, plus on fait rentrer le pognon dans les caisses des instituts de sondage. Et c'est d'ailleurs pas le seul, le seul motif qui incite les sondeurs à travailler beaucoup en période électorale, mais ça leur, parce que ça leur apporte surtout une notoriété, parce qu'il faut savoir que les sondeurs, les instituts de sondage, 90% de leur activité ne concerne pas la politique. C'est des entreprises, c'est des établissements publics, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des sociétés de marketing, etc. Mais leur principale cible, c'est pas la politique, c'est le milieu économique. Par contre, la notoriété, ils l'acquièrent lors des campagnes politiques en faisant des sondages. Tout simplement pourquoi ? Parce que ces sondages sont repris dans la presse et qu'on cite IFOP, Sofres, etc. Et que ça leur apporte en termes de crédibilité et en termes de notoriété, notamment pour les autres secteurs que sont les secteurs industriels et économiques. Donc eux, pendant les périodes électorales, ils ont tout intérêt à sonder. Alors, la presse a également tout intérêt à diffuser des sondages, parce que quand on diffuse un sondage, c'est repris par le reste de la presse. Hein, Ségolène Royal est montée de 3%, Sarkozy est descendu de 2%, etc. Le sondage, les Pages du Midi, ou les Échos, etc. Donc là aussi, pour les journaux en question, c'est une manière de se faire un peu de la publicité. Donc on arrive à cette espèce de cercle vicieux, notamment en période électorale, où ça n'arrête pas parce que chacun fait ses affaires avec ça. Bon, est-ce que c'est pour autant ça sur le plan de la démocratie, faut quand même se poser la question d'abord. Les sondages, même les sondeurs eux-mêmes reconnaissent qu'ils ne sondent pas l'intégralité de la population, que leur échantillon n'est pas forcément totalement représentatif de la population. Bon. Deuxièmement, ces sondages ne sont pas que scientifiques finalement, ils ont des répercussions politiques, ils ne font pas une élection. Mais ils orientent profondément le choix des candidats, la sélection des candidats. Ils pèsent beaucoup plus sur la pré-campagne que sur la campagne elle-même. L'exemple type, c'est la dernière élection présidentielle. Quand vous demandez aux électeurs, enfin aux citoyens, aux sondés, quel est le candidat qui a le plus de chances de battre, par exemple, Nicolas Sarkozy, que les sondages vous donnent tous que c'est Ségolène Royal, il est évident que le Parti socialiste va désigner Ségolène Royal. On est en plein dans la démocratie d'opinion. Bon. Et il est fortement à craindre que pour 2012, on retombe sur le même type de questions. C'est pour ça que est en train de se nouer un débat sur les primaires au sein de la gauche pour désigner le candidat. Mais le problème, à mon avis, ne va pas énormément changer parce qu'on va reposer la même question. Sarkozy étant au pouvoir, va vraisemblablement se représenter. Quel est le meilleur candidat pour battre Sarkozy ? Et bien là, on va avoir des sondages qui, un an avant, vont nous tomber toutes les semaines. Et puis, que vont faire à la fois les électeurs de gauche et les partis pour désigner le candidat ? Ils vont faire comme ils ont fait en 2006. Ils vont dire, on va prendre celui qui a le plus de chances de battre Sarkozy. Bon. Donc, à une époque, dans les années 80, Mitterrand avait été désigné contre les sondages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une furieuse bataille entre Mitterrand et Rocard dans les années 80 pour la désignation pour savoir qui serait le candidat, et les sondages étaient plutôt favorables à Rocard, et le Parti socialiste était plutôt favorable à Mitterrand. Bon, à l'époque, la démocratie d'opinion ne s'exerçait pas comme elle s'exerce actuellement à travers les sondages, et c'était le candidat du parti qui avait été désigné, Mitterrand, et finalement qui l'avait emporté. Là, maintenant, on est dans un fonctionnement, un procédé tout à fait inverse, c'est-à-dire que le parti politique désigne le candidat qui sort en fait des sondages d'opinion. Bon, c'est un basculement, il faut le savoir. On est dans l'ère de la démocratie d'opinion. Est-ce que cette démocratie d'opinion est une véritable démocratie. Mais en tous les cas, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les médias véhiculent ça. Ils véhiculent davantage ça que les débats de fond, que les émissions politiques, qui sont quasiment inexistantes, de moins en moins existantes, c'est sur les ondes. Rappelez-vous, dans les années 70-80, il y avait des débats, cartes sur table, armes égales, etc., l'heure de vérité. Bon, maintenant, si vous voulez, à une heure de grande écoute, à 20h30, maintenant, si vous voulez avoir un débat télévisé sur la politique, il faut attendre, dans le meilleur des cas, 22h30. Mais il n'y a plus ces grandes émissions politiques de l'époque. Bon, ça aussi, est-ce que ce n'est pas une déperdition en termes de démocratie ? On peut se poser la question. Voilà, je veux dire, maintenant, la politique, ça devient vraiment du spectacle. On invite Sarkozy, pourquoi ? Un des journalistes de télévision qui me disait ça quand j'ai fait le bouquin, c'est pourquoi on s'est arraché Sarkozy dans les années 2002 jusqu'à maintenant. Tout simplement parce qu'ils disent Sarko, c'est le meilleur client à la télé. C'est lui qui fait de l'audimat, c'est lui qui rapporte. Donc s'il rapporte de l'audimat, ça permet d'augmenter le prix de la publicité pour les annonceurs. Donc voilà, je veux dire, le système, on en arrive à ça maintenant. C'est un système pervers dans lequel on fait venir un homme politique, non pas forcément pour ce qu'il dit, mais parce que il fait de l'audimat. Et à partir de là, hop, on augmente les tarifs de pub. Bon, est-ce que ça aussi, c'est pas une atteinte à la démocratie ? C'est le spectacle plus que le fond politique. Bon, alors. Donc on voit bien que le fonctionnement des médias maintenant, c'est complètement adapté à la nouvelle donne économique et que les pressions économiques, d'une certaine manière, que ça soit pour traiter des sujets sur les entreprises ou pour fidéliser des téléspectateurs, l'économie est quelque chose qui guide de plus en plus la télévision au détriment du politique. Donc ça, on est rentré dans cette ère-là dans les années 80, hein, 80-90. Est-ce que l'on peut sortir de ça maintenant ? J'avoue que je suis assez sceptique quand on voit comment fonctionne la galaxie médiatico-politique. Enfin, dernier aspect sur les sondages. Est-ce que ils ont une influence quand même, même si elle n'apparaît pas comme ça au premier coup d'œil. Mais si on avait par exemple modifié la législation sur les sondages en 2002, on n'a pas le droit de publier les sondages la veille d'une élection et le jour d'une élection. Bon. Imaginez qu'on aurait eu le droit. C'est-à-dire que le dimanche matin de l'élection, du premier tour de la présidentielle, on aurait publié un sondage dans le journal du dimanche, qui aurait été évidemment répercuté à la télévision, etc., disant que Le Pen était devant Jospin dans les sondages. Vraisemblablement, le soir du résultat, à 20h, Jospin aurait été qualifié pour le deuxième tour. Les gens se seraient dit, alors, c'est pas possible. Ceux qui se sont égayés en disant, on va donner à Jospin une petite leçon parce que finalement, on n'est pas content de sa politique. Si le matin même du vote, on leur a dit, mais attendez, la situation est grave, c'est Le Pen qui est en tête dans nos sondages. Et si ça continue comme ça, ce soir, vous aurez en finale, pour le deuxième tour, Chirac et Le Pen. Ouais, je suis persuadé que dans la journée, dans l'après-midi, il y aurait eu un mouvement en faveur de Jospin qui se serait déclaré. Bon, donc on ne peut pas dire que l'influence des sondages soit nulle. Moi, je suis persuadé de ça. Hein. Si le matin, on avait publié les sondages, parce que les sondages, dans la semaine, ils montraient bien que la courbe était en train de se croiser entre Jospin qui baissait et Le Pen qui montait. Ça, les sondages le voyaient, et dès le jeudi, dès le vendredi, ils l'ont fait savoir aux états-majors politiques. Les états-majors politiques le savaient, ils n'ont pas voulu le croire. Mais bon, certains n'ont pas voulu le croire. Ceux qui ont voulu le croire n'ont pas été entendus à ce point-là, en disant « Non, jamais Le Pen chez nous n'arrivera au deuxième tour », etc. Bon, eh bien, si on avait publié ces sondages le dimanche matin, je suis persuadé que Jospin était au second tour. Donc c'est pour dire que les sondages, c'est quand même... Ça a un impact, ça... Vraisemblablement, ça a un impact d'entraînement sur le choix des candidats, sur... Bon, alors, est-ce que... Est-ce qu'il est sain que ça soit des sondages dont on ne sait pas toujours très bien comment ils sont faits? Parce que quand vous demandez à un sondeur et vous expliquez comment ils travaillent, bon, ils ont leur grille, etc., qui sont souvent assez justes. Mais enfin, bon, il y a quand même des marges d'erreur. Et quand on voit que c'est quand même ça qui influence une partie de l'électorat, j'ai bien une partie, bon, ben, faut quand même y faire attention. Donc, dernier aspect, dernier outil vecteur de l'information et qui évidemment a pris de l'importance au cours de ces dernières années, c'est Internet. Alors, est-ce que c'est un nouvel espace de liberté compte tenu de ce que je dis de cette information qui est un peu manipulée? Bon, je laisse de côté, je peux revenir, j'ai pris quelques exemples dans mon livre d'informations dissimulées, mais il est vrai que l'État et les gouvernements, quand ils ont envie de dissimuler une information, ils ne se gênent pas. Et je prends l'exemple de Tchernobyl, où j'explique comment, en reprenant un peu le calendrier des faits tels qu'ils se sont produits lors de la catastrophe de Tchernobyl, je démontre comment on a véritablement cadenassé l'information pour éviter que l'on sache qu'il y avait de la radioactivité dans le sud de la France et en Corse, alors que le gouvernement avait des chiffres de radioactivité dans ces documents, et ils ont évidemment organisé un blackout total pour que ces chiffres ne soient pas divulgués et que la population ne s'affole pas. Bon, c'est pas quand même non plus un modèle de démocratie. Mais ce dont je me suis aperçu par la suite, et c'est ça qui n'est pas très encourageant, c'est que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, oui, 20 ans plus tard, quand une équipe de télévision corse, qui était évidemment concernée, puisque la Corse avait été très touchée par... plus touché que le reste du pays par la contamination. Quand 20 ans plus tard, une équipe de télévision de FR3 Corse a voulu faire une enquête sur ce qui s'était vraiment passé 20 ans auparavant, qu'elle a réussi à la faire, qu'elle a réussi à obtenir des documents, des témoignages expliquant comment à l'époque on avait dissimulé l'information, eh bien, 20 ans après, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, c'était en 2006, eh bien, comme par hasard, France Télévisions a refusé de diffuser son reportage, à l'exception quand même de FR3 Corse. C'était bien moins qu'on puisse faire. Mais le réalisateur du reportage a écrit à Patrice de Carolis pour s'interroger, demander à ce qu'on diffuse son reportage sur d'autres chaînes, parce qu'il y avait la 2, il y a France 5, il y avait, qui pouvait tout à fait diffuser ce reportage. Il n'a jamais eu de réponse. Ce qui prouve que le lobby nucléaire est toujours aussi puissant et qu'on n'hésite pas encore, même 20 ans après, à maintenir une information cachée, tue, parce que tout simplement on ne veut pas déplaire un lobby. Ce qui est quand même étonnant, c'est que ce reportage, finalement, a été diffusé sur les télévisions suisses, belges, mais pas chez nous. Mais il est vrai que le nuage s'était arrêté aux frontières. Donc, c'est quand même... L'information dissimulée, c'est pas que il y a 20, 30 ou 40 ans, quand elle était verrouillée par un pouvoir politique fort. Ça existe encore, tout simplement, parce qu'il y a des lobbies qui pèsent et qui empêchent qu'un certain nombre d'informations, et notamment le lobby nucléaire, soit diffusé. Donc là aussi, il y a une atteinte à la démocratie. Les citoyens que nous sommes, on a le droit quand même d'être informés sur la réalité d'une catastrophe nucléaire qui nous a touchés. Eh bien non. 20 ans après, eh bien non. On ne sait toujours pas. Donc c'est ce que j'explique aussi dans ce livre, parce que, évidemment, la télévision, enfin les responsables politiques disent que c'est de la responsabilité. On n'allait pas prendre... l'irresponsabilité de diffuser un reportage qui ne faisait que dire la réalité, une réalité qu'on a tue. Bon. Donc, dans ce livre, je donne quelques exemples. Il y a Tchernobyl qui est, à mon avis, le plus intéressant, parce que je crains malheureusement que si se produisait une catastrophe du même ordre, le pouvoir politique fonctionne à peu près de la même manière. Je donne l'exemple de la tragédie d'Ouvéa aussi, où là on a quasiment bouclé l'île d'Ouvéa aux journalistes qui n'avaient absolument aucun accès à la grotte pendant qu'il y avait l'intervention, pendant que les Kanaks étaient retranchés dans leur grotte et en attendant l'assaut des forces de l'ordre. Et puis je donne aussi l'exemple des maladies des présidents, que ce soit Pompidou ou Mitterrand, où là aussi évidemment On a mis sous le boisseau tout ce qui dérangeait et l'information a été d'une opacité totale. Pompidou, ça durait moins longtemps, mais Mitterrand, ça a quand même duré une bonne quinzaine d'années, quasiment. Donc, bon, c'est quand même des choses qui interpellent un peu la démocratie, quoi. Je veux dire, il est quand même normal que les citoyens soient informés de l'état de santé de leur président. Il est évident, ce que je montre dans le livre, que dans la dernière année, Pompidou n'était plus en mesure d'exercer son mandat de président de la République, non pas parce qu'il avait perdu la tête, mais tout simplement parce que c'était un homme qui était malade, qui souffrait, qui était en perpétuel soin, et qui savait qu'il allait mourir, et que quand on sait qu'on va mourir, on pense davantage à soi, ce qui est normal et humain, on ne peut pas l'en reprocher, aux affaires du pays. Bon, Bernard Debré, que j'ai vu, que j'ai fait parler dans le livre, dit qu'effectivement, il aurait pu y avoir, comme on fait aux États-Unis, une procédure d'impeachment vis-à-vis de Pompidou, parce que c'est clair que, quand on voit les témoignages que j'ai recueillis, etc., il n'était plus en mesure d'assurer sa charge. Bon, et même chose pour Mitterrand, dans les deux dernières années de son règne, où tous les interlocuteurs qu'il voyait me faisaient dire qu'il ne parlait que de la mort à venir et que ceci, cela. Et ce que l'on peut comprendre, c'est humain. Je pense que vous et moi, on serait à leur place, on aurait le même comportement, sauf que nous, on n'est pas président de la République et on n'a pas en charge le destin du pays. Donc, il faut peut-être aussi se poser un jour la question de ce style de problème. Même si effectivement c'est très difficile à résoudre, mais enfin toujours est-il qu'il n'est pas normal que les Français soient informés de l'état de santé de leur président, surtout quand celui-ci ne peut plus exercer son mandat. Donc ça, c'était une parenthèse sur l'information dissimulée, pour vous dire que même s'il y a information verrouillée, contrôlée, dissimulée et manipulée, ça ne correspond pas forcément à des tranches historiques de l'histoire de l'information et de la politique, mais que ça se recoupe, ça se chevauche, même s'il y a des périodes où l'une de ces caractéristiques l'emporte sur les autres. Alors, dernier impact médiatique, c'est celui, effectivement, d'Internet. Alors, on peut se demander si Internet ouvre un nouvel espace de liberté. Alors, à la fois, c'est un vecteur qui a un impact démesuré, on le voit bien. Je veux dire, vous avez eu le bon goût d'organiser cette journée, cette soirée, la veille de l'enterrement de Michael Jackson, parce que si ça avait été demain, je pense qu'il y aurait eu peut-être encore moins de monde, tout le monde étant sous le coup de l'émotion planétaire, à la suite de la disparition d'une telle sommité. Et donc, je veux dire, là, ça aussi, ça pose un problème, c'est-à-dire que...
On a négocié.
Oui. Non, mais je vous félicite d'être arrivé. C'est pas facile de négocier avec Michael Jackson. Et donc, mais bon, je veux dire, c'est là. Ça, alors, cet exemple que je prends, qui est un peu grinçant, à la fois est aussi dans notre sujet, c'est-à-dire que Internet offre une information massive diffusée à une rapidité quasiment en temps réel, etc. Et donc, c'est en train de dépasser la télévision. Mais enfin, si on ajoute les chaînes de télévision d'information en continu plus Internet, on est complètement inondé d'informations. Bon, est-ce que parce qu'on est inondé d'informations, on est mieux informé ? Non. Voilà, parce que là encore, on joue sur l'émotion, sur la peur. Et que finalement, très peu de débats de fond sont abordés. Je veux dire, bien sûr, tout le monde... Est-ce que Internet a une image de démocratie, tout simplement parce qu'effectivement, chacun peut taper sur Internet, faire son blog, envoyer ses messages, participer à des chats, etc. Dans la mesure où chacun peut exprimer son opinion, effectivement, c'est un outil de démocratie incontestable. Donc, je veux dire... c'est le pluralisme des opinions qui peut s'exercer à travers Internet. Bon, mais une opinion, c'est pas forcément une information. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous dites, moi je suis pour l'aménagement du carrefour ici ou contre la peine de mort, que c'est une information, ça. Je veux dire, Donc là encore, il faut que l'information qui soit diffusée sur Internet, elle réponde à des critères professionnels, déontologiques, qui sont le recoupement de l'information, la vérification, la mise en forme de l'information, l'équilibre de l'information dans un article, dans un papier. Bon, c'est un métier, quoi. Je veux dire, bon, c'est un métier de journaliste. Alors, bon, les sites d'information, effectivement, sont en train de se créer. Bon, il y en a qui sont payants, d'autres qui sont semi-payants, d'autres qui sont gratuits. Bon, tout ça prouve que, comme dans la presse écrite, se pose aussi le problème du modèle économique de ces sites. Parce que si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes, les mêmes ornières de dépendance politique ou économique que les autres médias, Internet va se heurter très rapidement au même problème d'indépendance. Les sites vont se tomber très rapidement dans ce même type de problème-là. Donc, bon, c'est un formidable outil. C'est incontestable. Encore faut-il qu'il soit maîtrisé par de l'information, de la véritable information. C'est-à-dire, après tout, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire de l'information un journal sur Internet comme on fait un journal papier. Très bien. Les règles de déontologie et de fonctionnement sont les mêmes. Et je pense même que pour la presse écrite quotidienne, qui a des difficultés, Internet peut être une solution pour atténuer ces difficultés. C'est-à-dire que, au lieu de sortir, par exemple, un quotidien tous les jours, ça ne sera plus un quotidien, ça sera un journal qui peut sortir 3-4 fois par semaine, mais par contre qui alimentera un site quotidiennement. Sauf que le traitement du contenu va différer. Dans le quotidien, vous aurez quelque chose de plus pédagogique et de reportage, davantage axé sur le fond. Et puis Internet, ça sera la nouvelle qui tombe à la minute et qui sera répercutée dans la minute. Bon, voilà, je pense que si les journaux, les quotidiens ont une chance de s'en sortir, c'est peut-être par cette voie-là, mais je n'ai pas de solution toute faite. Donc, donc Internet, bien, oui, peut être un formidable outil d'information, à condition qu'on y fasse vraiment de l'information. Or, le blogueur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait de l'information. Or, le type qui passe dans la rue et qui rentre chez lui et qui tape frénétiquement ce qu'il a vu, etc., ce n'est pas de l'information. Donc il faut faire très très attention au fond, qui est là encore, une fois de plus, diffusé par un outil comme Internet, comme il faut faire très attention à l'information qui est diffusée par la télévision. Un des grands enjeux, à mon avis, de cette période-là, c'est de savoir sourcer les informations, d'où elles viennent. Parce que, à partir du moment où on a identifié l'émetteur, et sa position politique, économique, etc., c'est déjà à peu près pour avoir une idée du but de l'information. Donc après, il faut la recouper, il faut faire un vrai travail de journaliste. Je veux dire, mais ce qui n'empêche pas tout un chacun, évidemment, de taper, de donner son opinion sur la toile s'il en a envie. Donc, on est dans une société maintenant où l'information, on a l'impression qu'on est en flot continu, qu'il y a un flot continu d'information. Mais bon, l'information, ça se trie, ça se sélectionne. Enfin, je veux dire, tout ne se vaut pas. Je veux dire, et c'est pas parce que vous avez 10 000 informations qui tombent dans la journée que vous êtes informé. Vous êtes informé superficiellement sur un tas de trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais sur les vrais problèmes, est-ce que vous êtes informé? Non, pas forcément. Je veux dire, et la presse, là encore, ne fait pas forcément son travail, même si elle le fait en partie. Vous avez des pages de débat dans les journaux, vous avez la télévision aussi, c'est vrai, de bonnes émissions d'enquête, de reportage. Il ne faut pas dire, comme je le disais, pour reprendre mon argumentation du départ, que tout est nul. Mais pour un certain nombre de gens qui ne sont pas très au fait des choses, qui ne veulent pas s'y coller, eux, ils se laissent guider par ce flot en disant « Ah ben oui, mais ça, on sait ça, oui, on a appris ça ce matin, oui, mais ça ne vaut pas grand-chose en termes d'informations. Toutes les informations ne se valent pas. » Alors, c'est pas parce qu'on est noyé sous l'information qu'on est informé. Ça, c'est aussi un des grands problèmes qu'il faudra résoudre en matière de démocratie. Alors, pour terminer, je vais vous lire une citation de quelqu'un sur laquelle je suis tombé très récemment, d'ailleurs, qui dit « Si l'on considère, comme tous les grands événements politiques de nos jours encore, se glissent de façon furtive et voilée sur la scène, comment ils sont recouverts par des épisodes insignifiants à côté desquels ils paraissent mesquins, comment ils ne montrent leurs effets en profondeur et ne font trembler le sol que longtemps après s'être produits, quelle signification peut-on accorder à la presse, telle qu'elle est maintenant, avec ce souffle qu'elle prodigue quotidiennement à crier, à étourdir, à exciter, à effrayer ? Est-elle plus que la fausse alerte permanente qui détourne les oreilles et les sens dans la mauvaise direction ? Alors,
qui est l'auteur ?
Comment ?
Qui est l'auteur ?
Voilà.
La source
va vous surprendre. Parce qu'elle n'est pas d'un démocrate patenté, c'est pas quelqu'un dont on pense spontanément, quand on évoque son nom ou sa figure, à la démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est de Nietzsche. Bon. On ne peut pas dire que ça soit l'incarnation de la démocratie, Nietzsche. Bon, il a déjà remarqué que le fonctionnement de la presse pouvait quand même souffler dans le mauvais sens. Alors... Pour conclure, bon, ça c'était un petit pied de nez, parce que, ce recul, en fait, de l'information, de la véritable information, ce dévoiement d'un certain nombre de pratiques dans la presse, que ce soit l'autocensure, les pressions économiques, la pipolisation, tout ça qui gagne du terrain, il faut quand même constater que ça prend place dans un cadre beaucoup plus large, Qui est d'une perte de substance de la démocratie, qu'on peut constater, notamment à travers le phénomène des abstentions qui se développent au cours de chaque élection. C'est-à-dire que, là aussi, quelle est la légitimité des par exemple, prenons le cas des européennes, quelle est la légitimité de ceux qui ont été élus avec un taux d'abstention record comme celui qu'on a connu? Bon, je veux bien, tant mieux pour eux. Bon, c'est pas ça le problème, ils font leur boulot, etc. Mais bon, quand on s'aperçoit que l'abstention gagne des catégories entières, que ce soit les ouvriers, les jeunes, les gens des cités, sauf à la dernière présidentielle, bon, on se dit que c'est une démocratie quelque peu amputée qui est en train de se développer actuellement. Si on ajoute à ça les discriminations sociales, raciales, voire même territoriales, on se dit que la démocratie faiblit drôlement dans ce pays. Et les problèmes d'information, que ce soit, comme je vous disais, les questions économiques, la pipolisation, l'autocensure des journalistes, en place, à mon avis, dans cette espèce de recul de la démocratie, d'affaiblissement de la démocratie, et qui est d'autant plus pernicieux que finalement... Officiellement, on est dans une démocratie. Je veux dire, il n'y a aucune mesure spectaculaire qui est prise pour restreindre les libertés. Mais de temps en temps, il y a des histoires de fichiers, de contrôles, de ceci, de cela, qui apparaissent. Donc, bon, tout ça, cette démocratie est en train de s'effilocher un peu, sans qu'à chaque fois ça soit très grave. Mais quand on met bout à bout ce genre de petites déperditions, ou de déperditions même, on s'aperçoit que la démocratie s'effiloche, et sans que ça suscite une mobilisation spectaculaire de la part des citoyens, et même parfois des catégories sociales concernées. Vous avez 37 000 cartes de presse actuellement en France, et bien regardez le nombre de journalistes qui se mobilisent pour critiquer leur système, ou essayer d'apporter quelques améliorations, etc., quand il y a des manifestations qui ont lieu, ou des colloques, des trucs comme ça, et ça concerne quoi ? 200, 300 journalistes. Donc on est aussi dans une espèce d'aphasie, quoi, de démocratie qui s'effiloche, sans que finalement il y ait beaucoup de réactions. Et la presse fait aussi partie de ce climat et d'information de cette déperdition de la démocratie. Voilà, bon, grosso modo, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si je vous ai apporté beaucoup d'éléments, parce que je suppose que c'est quand même quelque chose que vous avez dû sentir vous-même, mais après je peux répondre à quelques questions sur plus précises sur les points que vous accepteriez, vous raborder quelques exemples.
OTO RADIO, Autoradio.
Ouvre tes oreilles sur la banlieue sud.